écorce battue. Toutes ces informations regroupées le conduisirent à penser que la Polynésie avait été colonisée par des marins venant en deux vagues successives, l'une d'Amérique du Sud, l'autre d'Asie du Sud-Est. D'après cette théorie, les courants avaient dû pousser leur radeau jusqu'au rivage polynésien. Mais personne ne voulait croire qu'un simple radeau puisse parcourir 8000 km en plein Pacifique. Thor Heyerdahl ne perdit pas son temps à argumenter pendant des heures pour convaincre ses détracteurs. Il s'envola pour l'Amérique du Sud, construisit sur place un radeau selon les techniques de construction de l'époque, emporta avec lui des noix de coco et quelques boîtes d'ananas au sirop et mit le cap sur la Polynésie. 4 mois plus tard, il était en mesure de dire « Eh bien voilà, c'est possible !» 30 ans plus tard, un autre scientifique allait se lancer dans une aventure tout aussi passionnante. Pour cela, nul besoin de sillonner les mers. Il ouvrit simplement la porte de son petit laboratoire éclairé au néon. Là, Barry Marshall se saisit d'une fiole contenant un peu de liquide et avala courageusement son contenu. Son collègue, John Warren, l'observait, curieux de ce qui allait se passer. Au bout de quelques jours, Barry Marshall avait une gastrite et pouvait déclarer fièrement « Eh bien voilà, c'est possible !» 30 autres années passèrent et cette fois, ce furent des chercheurs de Berlin et d'Irlande qui mirent en relation les disciplines de nos deux explorateurs. L'idée était que le germe gastrique de Marshall allait pouvoir nous donner des renseignements sur les premiers habitants de Polynésie. Pour cette expérience-ci, ni tour du monde, ni potion magique. On pria simplement quelques autochtones du désert et quelques habitants des montagnes de Nouvelle-Guinée de nous montrer ce qu'ils avaient dans le ventre. Voici une histoire de réfutation de paradigmes et de dévouement pour la science, dont les personnages principaux sont un rase-motte à hélice et un gros chat affamé. La bactérie Helicobacter pylori est présente dans l'estomac de la moitié de l'humanité. C'est une découverte assez récente et qui n'a d'abord pas été prise au sérieux. Pourquoi un être vivant irait-il se fourrer dans un milieu aussi hostile? Qui voudrait vivre dans une grotte pleine d'acides et d'enzymes destructeurs? Mais il en faut plus pour impressionner Helicobacter pylori. La bactérie a développé 2 stratégies pour se sentir justement à son aise dans ces contrées inhospitalières. D'une part, l'un des produits de son métabolisme est si basique qu'il est capable de neutraliser l'acide à proximité immédiate. D'autre part, la bactérie se glisse tout simplement sous la muqueuse par laquelle la paroi de l'estomac elle-même se protège de l'acidité ambiante. Habituellement, cette muqueuse a une consistance gélatineuse, mais Helicobacter parvient à la fluidifier pour s'y mouvoir facilement. Elle utilise pour cela de longs flagelles protéinés qu'elle fait tourner autour d'elle comme des hélices. Barry Marshall et John Warren étaient persuadés qu'Helicobacter provoquait dans l'estomac des infections et des ulcères. Jusque-là, ce type de trouble gastrique était communément attribué à une cause psychosomatique, comme le stress, ou à un dysfonctionnement des sécrétions de sucs gastriques. Les deux chercheurs ne devaient donc pas seulement réfuter une idée préconçue, selon laquelle toute vie était impossible dans les contrées acides de l'estomac, mais aussi prouver qu'une minuscule bactérie pouvait être la cause de maladies en dehors du processus infectieux classique. Jusqu'ici, on imputait aux bactéries que la responsabilité des plaies infectées, de la fièvre ou du rhume. Après l'épisode où Barry Marshall, en parfaite santé, ingère pour la science des bactéries Helicobacter et se retrouve avec une gastrite qu'il guérit avec des antibiotiques, il ne se passe rien. Il faudra attendre presque 10 ans pour que la découverte des 2 chercheurs soit finalement acceptée par la communauté scientifique. Aujourd'hui, quand un patient souffre de troubles gastriques, l'examen standard prévoit la recherche du germe. Le patient avale un liquide et si Helicobacter il y a, la bactérie décompose le liquide de sorte que le patient expire un gaz sans odeur mais caractéristique qu'une machine peut alors détecter. Boire, attendre, expirer. C'est assez simple comme test. Ce que les 2 scientifiques ne savaient pas, c'est qu'ils n'avaient pas seulement mis en évidence l'origine d'une maladie, mais aussi découvert le plus vieil ami de l'homme. Les bactéries hélicobactères, qui vivent en nous depuis plus de 50 000 ans, se sont développées avec nous. Quand nos ancêtres se sont mis en route à l'époque des grandes migrations, leurs germes hélicobactères étaient du voyage et ont eux aussi formé de nouvelles populations. C'est ainsi qu'on peut aujourd'hui distinguer pour cette bactérie trois types africains, deux types asiatiques et un type européen. Plus l'éloignement entre les populations était important et prolongé, plus leurs germes gastriques étaient différents. Avec l'esclavage, le type africain a été transporté jusqu'en Amérique. En Inde du Nord, les bouddhistes et les musulmans abritent deux souches différentes. Les familles des pays industrialisés ont souvent des germes hélicobactères propres à leur foyer, tandis que des sociétés fondées sur un contact plus étroit, comme dans les pays africains, peuvent aussi avoir les mêmes bactéries hélicobactères au niveau communal. Il ne suffit pas de loger hélicobactères dans son estomac pour avoir des problèmes gastriques. Mais la plupart des problèmes gastriques sont dus à hélicobactères. L'explication, c'est qu'il y a hélicobactères et hélicobactères, avec des degrés de dangerosité variables. La variante agressive possède deux spécificités. La première, c'est la protéine CAG-A, une sorte de minuscule seringue avec laquelle la bactérie peut injecter certaines substances dans nos cellules. La seconde caractéristique est baptisée VAC-A et aiguillonne constamment les cellules pour les amener à se détruire plus vite. La probabilité d'avoir des troubles gastriques est bien plus élevée quand nos bactéries hélicobactères sont équipées du gène seringue ou aiguillon. Sans eux, hélicobactères jouent les submersibles à hélice dans notre estomac sans causer trop de dégâts. En dépit de grandes similitudes, chaque germe hélicobactère est aussi unique que l'être humain qui l'accueille. La bactérie s'adapte toujours à son hôte et se transforme avec lui. C'est bien utile quand on veut retracer l'historique du « qui a infecté qui ». Les grands félins ont une bactérie hélicobactère bien à eux, baptisée Helicobacter acinonychus. Comme elle ressemble beaucoup à l'hélicobactère humaine, la question s'est posée de savoir qui avait mangé qui. Est-ce l'homme préhistorique qui a mangé le tigre ou le tigre qui a mangé l'homme préhistorique? Grâce à l'analyse génétique, on a pu observer que dans la bactérie féline, les gènes qui avaient été désactivés étaient surtout ceux qui lui auraient été utiles si elle avait dû s'accrocher à l'estomac humain, et pas l'inverse. En mangeant l'homme préhistorique, le grand félin a donc aussi mangé ses germes gastriques. Et comme quelques coups de dents ne suffisent pas à déchiqueter Helicobacter, et qu'elle est par ailleurs capable de s'adapter, le gros minou et ses descendants ont hérité de notre bactérie. Il y a quand même une justice en ce bas monde. Mais pour revenir au fond du problème, Helicobacter, c'est une bactérie sympa ou plutôt pas? Helicobacter, une bactérie pas sympa. Comme le germe niche dans notre muqueuse et s'y défoule en faisant tourner ses hélices dans tous les sens, il fragilise la barrière protectrice qu'elle constitue. Résultat, le suc gastrique attaque et digère notre repas, mais aussi un peu de nos cellules. Si nous sommes en plus en présence du gène seringue ou aiguillon, nos pauvres cellules vont déguster. Un porteur de cette bactérie sur 5 développe à cause d'elle de petites lésions dans la paroi stomacale. Les trois quarts des ulcères de l'estomac et presque la totalité des ulcères de l'intestin grêle font suite à une infection à Helicobacter pylori. Quand le traitement antibiotique signe l'arrêt de mort des germes, il met aussi fin aux troubles gastriques. Bientôt, les antibiotiques pourraient être remplacés par un extrait concentré de brocoli, le sulforaphane. Il s'agit d'une substance capable de bloquer l'enzyme qui permet à Helicobacter de neutraliser l'acidité gastrique. Pour ceux qui voudraient essayer, veillez à la qualité du produit et après 2 semaines de prise, faites confirmer par votre médecin qu'Helicobacter a bien disparu. Une stimulation permanente n'est jamais très bénéfique. On s'en aperçoit bien avec les piqûres d'insectes. Quand ça démange en continu, on finit par perdre patience et, pour que les démangeaisons cessent enfin, on se met à gratter jusqu'à ce que ça saigne. Au niveau des cellules gastriques, c'est la même chose. Quand il y a une inflammation chronique, les cellules sont irritées en continu et finissent par se décomposer elles-mêmes. Chez les personnes âgées, il peut s'en suivre une perte d'appétit croissante. Heureusement, l'estomac abrite des cellules souches qui travaillent à la chaîne pour produire la relève et combler au plus vite les pertes subies. Mais quand les ouvriers sont débordés, ils font plus d'erreurs et peuvent un jour se transformer en cellules cancéreuses. Quand on regarde les chiffres, tout cela ne semble pas si catastrophique. Seuls 1% environ des porteurs d'hélicobactères développent un cancer de l'estomac. Mais quand on se rappelle que la moitié de l'humanité est porteuse de ce germe, 1%, ça fait quand même un sacré paquet de gens. Les risques d'être atteint d'un cancer de l'estomac sont 40 fois plus réduits sans hélicobactères qu'avec. En 2005, Barry Marshall et John Warren ont reçu le prix Nobel de physiologie ou médecine pour leur découverte de l'implication d'hélicobactères pylori dans les inflammations, les ulcères et le cancer. Entre le cocktail de bactéries servi dans une petite fiole et la coupe de champagne servie pour fêter l'événement, 20 ans s'étaient écoulés. Et ce n'est que plusieurs années plus tard que le lien entre hélicobactères et la maladie de Parkinson put être établi. Dès les années 1960, les médecins avaient pourtant noté une forte prévalence des troubles gastriques chez leurs patients parkinsoniens, mais à l'époque, ils ne savaient pas comment mettre en relation l'estomac et les tremblements. Une étude menée sur différents peuples de l'île de Guam, dans l'océan Pacifique, allait finalement permettre de faire la lumière sur ce lien. Sur l'île de Guam, on recense dans certaines populations un nombre anormalement élevé de symptômes parkinsoniens. Les personnes touchées ont les mains qui tremblent, leur mimique est moins expressive, ils se déplacent plus lentement. On a pu mettre en évidence que la maladie était particulièrement répandue là où la population se nourrissait de graines de cica, un palmier local. Ces graines renferment des composants toxiques pour les cellules nerveuses. Or, Helicobacter pylori est capable de fabriquer une substance très similaire. En administrant un extrait de la bactérie à des souris, sans les infecter avec des bactéries vivantes, on a pu constater qu'elles développaient des symptômes proches de ceux dont souffraient les habitants de Guam. Là encore, une précision. Les bactéries hélicobactères ne produisent pas toute cette toxine, mais quand elles le font, ce n'est certainement pas la meilleure des choses. Pour résumer, Helicobacter manipule nos barrières protectrices, peut irriter et détruire nos cellules, fabriquer des toxines et nuire ainsi à tout notre corps. Comment se fait-il alors qu'au cours des millénaires, nous soyons restés quasiment sans défense face à ce germe ? Pourquoi notre système immunitaire tolère-t-il ces bactéries si longtemps et en si grand nombre ? Helicobacter, une bactérie sympa. L'une des plus grandes études menées sur Helicobacter et ses effets a abouti à cette conclusion. La bactérie, et notamment la souche jusqu'ici jugée dangereuse, celle qui est équipée d'une petite seringue, interagit avec notre corps pour le plus grand bien de ce dernier. Après une observation menée sur 12 ans et plus de 10 000 participants, on peut affirmer que les porteurs de ce type de bactéries Helicobacter ont effectivement une plus grande probabilité d'être touchés par un cancer de l'estomac, mais aussi nettement moins de risques de mourir d'un cancer des poumons ou d'un accident vasculaire cérébral. Nettement moins, cela veut dire deux fois moins que les autres participants au test. Avant cette étude, on supposait déjà qu'un germe aussi longtemps toléré ne pouvait pas être que mauvais. Des expériences sur la souris avaient montré que la présence d'hélicobactères au plus jeune âge offrait une protection fiable contre l'asthme. L'antibiothérapie détruisait cette protection et les jeunes souris pouvaient alors à nouveau développer un asthme. Sur les souris adultes, l'injection de la bactérie avait aussi eu un effet protecteur, mais moins marqué. Vous me direz, les souris ne sont pas des hommes. Mais il se trouve que cette constatation correspondait bien aux tendances qu'on observait, notamment dans les pays industrialisés. Les cas d'asthme, d'allergie, de diabète ou de dermatite atopique y étaient en hausse, tandis que les taux d'hélicobactères baissaient. Cela ne suffit pas, bien sûr, à affirmer que le germe hélicobactère pourrait être à lui seul un super-héros combattant l'asthme. Mais peut-être y contribue-t-il. Voici l'hypothèse qui fut alors élaborée. Helicobacter est une bactérie qui apprend à notre système immunitaire à rester cool. Elle s'installe dans notre estomac et veille à ce qu'un grand nombre de cellules régulatrices, dites cellules T, soient fabriquées. Les cellules T sont des cellules immunitaires. Ce sont elles qui, quand l'ambiance tourne au vinaigre pendant une soirée trop arrosée, posent la main sur l'épaule de leur ami aviné, le système immunitaire, et lui disent d'une voix de ténor « Laisse, je m'en charge ». Elles sont le Mr. T de l'estomac. Ce n'est sans doute pas de là qu'elles tiennent leur nom, mais c'est en gros leur fonction. Tandis que le système immunitaire en est encore à brailler hors de lui « Mais casse-toi, sale petit pollen ! Barre-toi de mes poumons, connard !» et qu'il se prépare au combat, les yeux rougis et le nez morveux, la cellule T dit tranquillement à son ami « Allez, calme-toi, on va pas s'emballer pour si peu. Le sale petit pollen ne l'a pas fait exprès, il cherche juste une petite fleur à polliniser. C'est surtout pour lui que c'est bête, il ne risque pas d'en trouver ici. » Plus on a de cellules polissées de ce type, et plus le système immunitaire est relax. Chez une souris porteuse d'hélicobactères, un grand nombre de cellules T sont produites et il suffit de transplanter ces cellules sur une autre souris pour améliorer l'asthme de cette dernière. La méthode est sans aucun doute plus simple que d'apprendre à une souris à se servir d'un minuscule inhalateur. On sait aussi que les êtres humains porteurs d'hélicobactères sont un tiers moins touchés par l'eczéma. Alors, si les troubles digestifs inflammatoires, les maladies auto-immunes et les infections chroniques sont si courants à notre époque, serait-ce aussi parce que, sans le savoir, nous éliminons ce qui nous a protégés pendant des millénaires? Helicobacter, une bactérie à la fois sympa et pas sympa. Les bactéries Helicobacter pylori ont de multiples facettes. On ne peut pas se contenter de les diviser en deux catégories, bonnes ou mauvaises. Le résultat dépend toujours de ce à quoi le germe occupe son temps quand il est dans nos entrailles. Produit-il des toxines dangereuses ou déclenche-t-il des mécanismes de protection en interaction avec notre corps? Comment réagissons-nous aux germes? Nos cellules sont-elles constamment stimulées ou bien fabriquons-nous assez de mucus dans l'estomac pour satisfaire à nos besoins et à ceux de la bactérie? Quel rôle jouent les antalgiques, la cigarette, l'alcool, le café ou le stress permanent qui agressent la muqueuse? Est-ce la combinaison de tous ces facteurs qui finit par déclencher des troubles digestifs parce que notre vieil ami Helicobacter dit stop aux agressions? En cas de troubles digestifs, l'Organisation mondiale de la santé recommande de se débarrasser de l'éventuel responsable. Même chose quand on a dans sa famille des cas de cancer de l'estomac, certains lymphomes ou des antécédents de Parkinson. Mieux vaut mettre Helicobacter à la porte. Thor Heyerdahl est décédé en 2003 en Italie, à l'âge de 88 ans. Quelques années de plus, et il aurait pu voir comment les études menées sur des souches Helicobacter venaient confirmer sa thèse sur la colonisation de la Polynésie. Deux souches asiatiques Helicobacter ont conquis le Nouveau Monde en deux vagues successives, en passant effectivement par l'Asie du Sud-Est. Cette découverte ne valide pas encore sa thèse de l'Amérique du Sud. Mais qui sait quelles bactéries nous rencontrerons encore sur notre chemin avant que la théorie de Thor Heyerdahl n'arrive à bon port au niveau microbiologique. Les toxoplasmes, hôtes kamikazes du chat. Une jeune femme de 32 ans s'entaille un jour volontairement le poignet avec la lame d'un rasoir du supermarché. L'envie était trop forte. Un fan de voiture de course de 50 ans appuie sur l'accélérateur et fonce tout droit dans un arbre. Il meurt sur le coup. Un rat s'allonge dans une cuisine, juste à côté de la gamelle du chat, et se présente sous son plus bel aspect pour faire un excellent déjeuner. Quel point commun y a-t-il entre ces trois protagonistes? Aucun des trois ne prête l'oreille à ces signaux internes qui suivent les intérêts du syndicat très puissant de nos cellules et ne veulent pour nous que le meilleur. Visiblement, il y a chez ces trois protagonistes d'autres groupes d'intérêts en contradiction avec ceux de leur propre corps. Des groupes d'intérêts qui pourraient être issus d'un intestin de chat. Les intestins de chat sont le refuge de Toxoplasma gondii, un micro-organisme qui n'est composé que d'une seule cellule, mais fait déjà partie du règne animal. Son génome présente une structure bien plus complexe que celui des bactéries. En outre, Toxoplasma gondii est doté de parois cellulaires différentes et sa vie est peut-être un peu plus passionnante que celle d'une bactérie. Les toxoplasmes se multiplient dans les intestins des chats. Le chat est leur hôte. Et tous les autres animaux qui ne servent au toxoplasme que de taxi pour se rendre jusqu'au prochain matou sont des hôtes intermédiaires. Un chat ne peut avoir des toxoplasmes qu'une fois dans sa vie. C'est le moment où il est dangereux pour nous. Les vieux matous, pour la plupart, ont déjà passé le cap de la toxoplasmose et ne représentent alors plus de danger. En cas d'infection déclarée, les toxoplasmes sont présents dans les excréments de l'animal et, après 2 jours passés dans la litière, ils sont arrivés à maturation et peuvent aller faire un petit tour chez un autre chat. S'il n'y en a pas dans le coin, les toxoplasmes prennent ce qui leur tombe sous la main. Par exemple, un bipède consciencieux armé d'une petite pelle et d'un sac en plastique. Et les bébêtes sont patientes. Elles peuvent attendre jusqu'à 5 ans avant d'emménager chez leur nouvelle hôte. Les propriétaires de chats ne sont donc pas les seuls visés. Les chats et les autres animaux hôtes prennent l'air dans les jardins. Ils se promènent dans les champs plantés de légumes ou sont parfois tués. La principale source de contamination est la consommation d'aliments crus. En pourcentage, la probabilité pour nous d'être l'hôte de toxoplasme est à peu près égale à notre âge. 1/3 de l'humanité environ est concernée. Toxoplasma gondii est classé parmi les parasites parce qu'il n'a pas choisi de vivre sur un petit lopin de terre quelconque ou se nourrir de l'eau et des plantes locales, mais sur un petit lopin d'être humain. Nous l'appelons parasite parce qu'en échange de notre hospitalité, il ne nous offre rien. Ou du moins rien de positif, ni loyer, ni affection. Au contraire, il peut aussi nous nuire en contribuant à une sorte de pollution environnementale humaine. Ces parasites n'ont pas beaucoup d'impact sur les adultes en bonne santé. Certains remarquent quelques symptômes grippaux, mais la plupart des gens ne remarquent rien du tout. Passé la phase aiguë de l'infection, les toxoplasmes se retirent dans de minuscules appartements au cœur de nos tissus et entrent en hibernation. Ils s'installent là à vie, mais ne nous dérangeons pas. Ce sont des sous-locataires plutôt calmes. On ne fait cette expérience qu'une fois. Ensuite, le panneau alloué est pour ainsi dire retiré de la vitrine et on ne peut plus être à nouveau infecté. La situation est tout autre quand la personne infectée est une femme enceinte. Les parasites peuvent s'infiltrer par le sang et parvenir jusqu'à l'enfant. Son système immunitaire ne les connaît pas encore et n'est pas assez rapide pour les neutraliser. Ça ne se produit pas forcément, mais si ça se produit, les dommages causés peuvent être graves et aboutir à la mort du fœtus. Quand l'infection a été détectée suffisamment tôt, des traitements médicamenteux sont proposés. Le problème, c'est que la plupart des personnes atteintes ne remarquent aucun symptôme. Seul un dépistage sérologique peut révéler la présence des toxoplasmes. En France, contrairement à ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe, c'est un examen systématique chez la femme enceinte. Si l'on conseille aux femmes enceintes de faire en sorte que la litière du chat soit changée chaque jour, tâche dont s'acquittera si possible une autre personne, de ne pas manger de viande crue et de bien laver les fruits et les légumes, c'est parce que ce sont les voies de contamination des toxoplasmes. Une personne porteuse de toxoplasmes ne peut pas en contaminer une autre. Seuls les tout jeunes talents sortis de l'intestin d'un chat infecté sont en mesure de nous coloniser. Mais comme on l'a dit, ils tiennent le coup plusieurs années, y compris sur les mains du propriétaire du chat. Et voilà un point de plus à la longue, très longue liste des bonnes raisons de se laver les mains. Bien, pour résumer, à condition de ne pas être enceinte, ces toxoplasmes semblent plutôt être de petits gars insignifiants, au pire un peu désagréables. Pendant des décennies, plus personne ne s'est d'ailleurs intéressé à eux, jusqu'au jour où les rats kamikazes de Joan Webster ont tout fait changer. Joan Webster, chercheuse à l'université d'Oxford dans les années 1990, est l'auteur d'une expérience simple mais brillante. Elle plaça dans une grande cage 4 maisonnettes, une à chaque coin, et dans chacune d'entre elles, une coupelle remplie d'un liquide particulier. De l'urine de rat, de l'eau, de l'urine de lapin ou de l'urine de chat. Un rat, même s'il n'a jamais vu un seul chat de sa vie, évite les endroits d'où émanent des odeurs d'urine féline. Et il y a aussi une autre tradition parmi les rongeurs, qu'on pourrait formuler ainsi. Si on t'enferme dans une drôle de cage avec des maisonnettes et des coupelles d'urine, méfie-toi. Normalement, tous les rats se conduisent de la même façon. Ils font un petit tour dans cet étrange environnement, puis se retirent dans l'une des maisonnettes qui contient de l'urine inoffensive. Au cours de son expérience, Joan Webster nota cependant des exceptions. Certains rats adoptaient soudain un tout autre comportement. Ils semblaient sans crainte et exploraient tous les recoins de la cage, pénétraient, à l'encontre de leur instinct, dans la maisonnette marquée par l'urine de chat et y restaient même un certain temps. Sur des périodes d'observation prolongées, Joan Webster put même constater qu'ils allaient jusqu'à préférer cette maisonnette aux autres. À croire qu'il n'y avait rien de plus intéressant que la molécule de pipi de chat. Une odeur mémorisée comme signe d'un danger mortel était soudain ressentie comme attirante et digne d'intérêt. Apparemment, les rongeurs voulaient à tout prix courir à leur propre perte. Joan Webster savait quelle était la seule différence entre ces rongeurs et les rongeurs normaux. Les risque-tout avaient été infectés par des toxoplasmes. Et là, je dis bravo. En poussant le rat dans la gueule du chat, l'ingénieux parasite